VOA Afrique, les infos à Washington.
John Linden à la présentation. Bonjour à tous. Il est 15h à Washington DC et 18h en temps universel. Bienvenue dans ce nouveau bulletin d'information. 19h en temps universel. Bienvenue dans ce nouveau bulletin d'information présenté par John Linden. Au moins 12 civils ont été tués dimanche dans les bombardements des militaires et des paramilitaires qui s'affrontent désormais dans une nouvelle ville du Darfour, vaste région de l'ouest soudanais, que ne cessent de fuir des réfugiés. Le premier bilan provisoire est de 12 civils tués à Niala, chef-lieu du Darfour Sud, souligne sous couvert d'anonymat un médecin de cette ville. Mais nous savons que des gens ont été tués ou blessés avant de pouvoir rejoindre un hôpital, car la violence et les combats empêchent les déplacements, explique-t-il. Depuis le 15 avril, la guerre entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo a fait plus de 2 800 morts selon l'ONG ACLED et plus de 2,5 millions de déplacés et de réfugiés selon l'ONU. 5 civils ont été tués, certains décapités dans une attaque samedi soir dans 2 villages de l'est du Kenya revendiqués par les islamistes radicaux Shebab, a-t-on appris dimanche de sources policières et d'habitants. L'attaque a été menée samedi vers 16h30 GMT dans les villages Djouhoudi et Salama situés dans le comté côtier de Lamu, frontalier de la Somalie, selon ses sources. Selon une autre source policière, les assaillants étaient armés de machettes et certains avaient des armes à feu, mais ils ne leur ont pas tiré dessus. Les Shebab, groupe affilié à Al-Qaïda, ont revendiqué dans un communiqué avoir mené une opération sur le village de Djouhoudi, affirmant avoir tué 6 membres de ce qu'ils qualifient d'infidèles kényans. Ils ont également incendié 10 maisons où résidaient des chrétiens. Un employé d'un aéroport du Texas, ici aux États-Unis, est mort vendredi après avoir été aspiré par le réacteur d'un avion venant d'atterrir sur le tarmac. Selon le NTSB, l'organisme américain chargé d'enquêter sur les accidents de transport, l'homme a été aspiré par le réacteur d'un avion de ligne de la compagnie Delta qui avait atterri à l'aéroport international de San Antonio en provenance de Los Angeles en Californie et qui roulait sur la piste pour rejoindre la porte de débarquement avant avec un seul moteur en fonction, a précisé le NTSB qui a ouvert une enquête pour déterminer les conséquences de cet accident survenu vendredi aux alentours de 22h25 heure locale. L'homme travaillait pour la société Unify Aviation, selon des médias locaux, une entreprise qui propose des services d'assistance à plusieurs compagnies aériennes, dont Delta. Les forces du groupe paramilitaire Wagner se replient progressivement en Russie après le coup de force avorté de leur chef, Evgeny Prigojine, qui a, selon Washington, mis au jour des fissures réelles au sein de l'appareil d'État de Vladimir Poutine. Evgeny Prigojine doit partir pour le Bélarus, a annoncé samedi soir la présidence russe, sans qu'on sache quand ce départ aux allures d'exil est prévu ni où se trouve le patron de Wagner. Lors d'une équipe de 24 heures qui a mené ses milices à moins de 400 kilomètres de Moscou, voire même 200 selon lui, il a fait trembler le Kremlin avant de faire volte-face et d'ordonner à ses hommes de rentrer dans leur base après une médiation du dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko, seul allié européen du Kremlin. Et puis le coup de force avorté du chef du groupe paramilitaire Wagner, Evgeny Prigojine, révèle des fissures réelles du plus haut niveau de l'État russe, défiant l'autorité du président Vladimir Poutine, a estimé dimanche le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. Fin de ce bulletin d'information présenté par John Linden. Je vous reviens dans moins de 55 minutes pour d'autres infos sur VOA Afrique. D'ici là, restez à l'écoute de nos programmes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
et tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bienvenue dans le dialogue des religions consacré ce soir à l'effet caméléon en sociologie de la religion en Afrique. Eric Manirakiza avec vous au micro, Lionel Lunanilagahima sur la mise en onde. Nous explorons la problématique entourant ce phénomène complexe qui se réfère à la capacité des individus de s'adapter et d'adopter différentes pratiques religieuses selon leur environnement social. Comment cet effet influence-t-il la dynamique religieuse en Afrique? Quelles sont les implications pour les croyants et les communautés religieuses? Nous en parlons dans un instant avec nos invités. Benoît Eli Awazimbambi Kungua, président du Centre de recherche pluridisciplinaire sur les communautés d'Afrique noire et des diasporas, Cercle CAD, basé à Ottawa au Canada, auteur de la théologie négro-africaine contemporaine, est avec nous en ligne. Bonsoir Benoît.
Bonsoir Eric et bonsoir à toutes nos auditrices et auditeurs de la Voix de l'Amérique.
Jean-Pierre Karegeye, professeur à Dickinson College en Pennsylvanie, il a publié et co-dirigé des ouvrages sur la religion, notamment Récit du génocide. Jean-Pierre, bonsoir.
Et bonsoir Eric.
Oui, on parle de la sociologie de la religion, donc qui étudie les manifestations sociales et les dynamiques des croyances religieuses dans les sociétés humaines. Elle examine aussi comment la religion façonne les comportements, les interactions sociales, les structures sociales et les identités individuelles et collectives. Jean-Pierre, comment l'effet caméléon en sociologie de la religion se manifeste dans la société africaine?
Disons d'abord que l'expression elle-même, donc l'effet caméléon, est d'abord propre à la psychologie, bien sûr, et qu'on utilise aussi dans d'autres disciplines, comme vous l'avez bien dit, la sociologie de la religion, mais beaucoup plus en psychologie pour désigner une tendance à s'adapter ou adapter son comportement. Donc c'est beaucoup plus en termes de comportement ou ses mots ou sa personnalité à la personne qui se trouve en face de nous. Donc ça, c'était plus d'un individu à l'autre, bon, évidemment parce que ça a été conçu ou plutôt observé à partir des sociétés occidentales. Donc ça, c'est une façon où on peut comprendre d'abord l'effet caméléon ou ce qu'on appelle le syndrome caméléon, de caméléon. Mais alors la question que je me pose quand vous dites comment se manifeste l'effet caméléon dans la société africaine, et là j'aurais une question pour vous. Et on parle de quel caméléon? Et qu'est-ce qu'on retient de lui? Pourquoi? Parce que en Afrique, je penserais plutôt à Madou Mpateba avec sa fable de à l'école du caméléon et en s'adressant aux jeunes quand il dit si j'ai un conseil à vous donner, je vous dirai ouvrez votre cœur. Et ça, c'est Amadou Mpateba. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une sorte de phénoménologie du regard, du comportement du caméléon. Et il observe tout et il fait une analogie. Il analyse, par exemple, le regard. Et puis, à travers le regard, il passe à son adaptation, comment le caméléon s'adapte à l'environnement. Et ça, nous sommes donc directement à l'effet des caméléons. Et qu'est-ce qu'il lui dit, Amadou Mpateba? Il dit, et là, voilà, le caméléon, c'est un grand professeur. Et à travers ça, lui dit, cette adaptation, il ne s'agit pas, ce n'est pas de l'hypocrisie, mais c'est plutôt une façon, c'est la tolérance, le savoir-vivre. Donc, face à l'autre, je m'adapte. Donc, dans un sens politique, voilà comment lui analyse. Donc, alors, si vous posez cette question, je dirais, mais alors, pas de l'effet caméléon, lequel? Voilà, ou bien qu'est-ce qu'on retient de lui? Donc, d'une part, et d'ailleurs, avant de parler d'une part, disons, dans nos sociétés africaines, quand on pense à cette expression, par exemple, du Cameroun, un proverbe qui est un proverbe Kossi, qui dit, voilà, quand on change le tam-tam de place, il a un autre ton. Donc, ça change. Et c'est comme on dit aussi en français, il faut hurler avec les loups. Voyons donc de ça, c'est de façon générale. Donc moi je dirais, ce fait de s'adapter, évidemment, en religion, si nous parlons de ce sujet de la religion, évidemment il ne s'agit pas de la théologie, mais il s'agit de regarder la religion comme un fait social, oui, et dans ce cas-là, je pourrais dire qu'au niveau de l'Afrique, évidemment, et la religion ou en société fonctionne comme à travers un certain nombre des normes et que les gens évidemment s'adaptent ou plutôt ou adhèrent à un certain comportement comme fait social évidemment ou ils s'identifient par rapport à ça. Et donc est-ce qu'on appellerait ça le fait caméléon? Peut-être. Donc, mais je dirais qu'il y a plus d'adhésion, qu'il y a plus d'adaptation. Et ce qui, au niveau de la religion, ce qui, pas qui disparaît, mais qui diminue, je dirais, c'est le sujet, en réalité. Parce que quand on dit j'adhère à une foi, surtout par exemple au niveau du christianisme, pas seulement le christianisme, mais même aussi l'islam, c'est-à-dire on dit la foi, et c'est pas seulement l'individu, c'est pas seulement l'individu, mais ça dit j'adhère à une communauté de foi. Donc dans ce cas-là, et ça signifierait qu'il y a le fait, c'est le fait donc de cette communauté et, à laquelle je m'identifie.
On peut parler de conversion opportuniste.
Bon, il y a conviction. Je parlerai plutôt de conviction. Donc les gens. Je parlerai plutôt de conviction, mais ce qui peut être mis en procès, ou la question serait plutôt est-ce que j'y adhère de façon rationnelle, par exemple. Parce qu'à ce moment-là, si je m'identifie, donc je ne fais que ce que ma religion me demande de faire dans ce cas-là. Donc, et là, j'aimerais ajouter quelque chose. C'est une blague qu'on raconte, mais qui m'ont des effets, parce que là, vous évoquez le cas, par exemple, de la religion. Quelqu'un disait, il est très facile de négocier avec un terroriste qu'un fanatique religieux. Parce qu'un terroriste, il pose un acte de violence pour obtenir quelque chose, c'est pour pouvoir négocier. Mais on ne peut pas négocier avec un fanatique.
Benoît, quels sont les facteurs socioculturels qui influencent l'effet caméléon en sociologie de la religion en Afrique?
Oui, que je rebondis aussi à ce que mon interlocuteur a donné comme base au niveau de la sociologie de la religion. Mais j'ajouterai quelque chose, c'est-à-dire, dans nos analyses, il faudra aussi une certaine subtilité herméneutique, ça signifie une subtilité dans l'interprétation. Parce qu'on ne peut pas déconnecter totalement l'approche d'une phénoménologie sociale des religions et le contenu dogmatique, hein, l'orthodoxie des religions. Parce que les acteurs agissent par rapport aux valeurs, à l'orthodoxie dont ils se font l'idée par rapport à leurs églises ou religions respectives. Donc, c'est tout à fait complémentaire. Moi, je rebondirai en deux temps. Dans un premier temps, effectivement, il faut faire un travail de décryptage, de sociographie, d'une phénoménologie sociale. Mon collègue l'a fait, et très bien. Mais alors, il y a deux types de sociétés, largement, parce qu'on parle de l'Afrique. Mais pour les religions, étant donné que la plupart des grandes religions sont importées, alors, dans un premier temps, donc la première partie de mon approche, qui reste encore au niveau de la sociologie des religions, donc c'est que, d'une part, en Occident, là où nous sommes, aux États-Unis, au Canada, en France, nous sommes dans des sociétés de démocratie néolibérale. Hein, rapidement, où il y a la technoscience, comme l'a dit Habermas, les sociétés industrielles avancées, où on a dégagé un espace laïque où le religieux n'a rien à faire, où ce sont les lois politiques et démocratiques qui dirigent le vivre ensemble. Tout à fait bien noté. Mais en Afrique, et c'est ça le problème de l'Afrique, il faut vraiment une approche, j'appelle ça pluridisciplinaire, une approche stéréoscopique, un regard stéréoscopique, parce qu'il faut superposer plusieurs paramètres. C'est-à-dire en Afrique, en gros, nous sommes dans des sociétés, malgré l'apparente modernisation des médias sociaux, des révolutions numériques, ce sont des sociétés qui sont régies, qui connaissent avec une grande vélocité un processus souterrain et profond de retraditionnalisation. Ce sont les schèmes des religions traditionnelles africaines, notamment rapport visible et invisible, le monde des esprits, les sorcelleries, qui prédéterminent, même qui surdéterminent les configurations politiques et sociales en Afrique. Vous voyez, ça c'est les deux, une certaine antinomie entre les sociétés occidentales néolibérales, où la technoscience règne, mais en Afrique, malgré une apparente modernisation de surface, il y a ces normes, ces valeurs du monde invisible, du monde des esprits qui prévalent. Alors du coup, pour me concentrer maintenant sur l'Afrique après cette première approche, il faut tenir compte Afrique et diaspora. Pour les diasporas, mon collègue l'a déjà fait, par exemple ici au Canada, hein, moi-même j'ai fait une expérience d'enseignement des langues. On ne peut pas parler de religion dans les écoles de langue du gouvernement fédéral. Mais en même temps, dans le même ministère du Canada, il y a des espaces pour les juifs, les musulmans ou les chrétiens, s'ils veulent prier. C'est la force du Canada. Bon, il y a aussi d'autres exemples que je peux donner. Il y a les écoles hassidiques ici à Montréal, les juifs hassidiques, qui ont leur école privée et qui ne suivent pas tout à fait le programme de l'éducation du Québec. Plusieurs fois, le ministre du Québec s'est plaint, mais ça se limite là. Ils ont leur vision du monde, leur niveau vision de la création. Il y a aussi, je termine, le mondial qui est passé au Koweït. Malgré les promesses des Koweïtiens, cela, c'est la charia qui dirige. Donc, il n'y a pas de monde laïque dans ces pays arabo-musulmans. C'est la charia, donc la loi de Dieu, de Allah, qui dirige. Ça, c'est ma première partie, Eric. Maintenant, permets-moi de finir dans la deuxième partie. Je disais que nous ne pouvons pas déconnecter totalement une approche de sociologie de religion et une approche théologique, parce que les acteurs religieux agissent par rapport à leur relation ultime à Dieu. C'est parce qu'ils sont conscients que c'est Dieu qui a le dernier mot qu'il va avoir la priorité sur les conditionnements sociaux. Alors je donne deux exemples rapidement. D'abord par rapport au christianisme, mais quel est le problème qui se pose ? Ici en Occident, il y a des églises qui sont vides, vous le savez, et même c'est le bataillon des prêtres africains qui les font tourner pour la moitié des gens, des églises. J'ai déjà dit ça. Mais en Afrique, c'est plein. Pas seulement les églises, mais partout, même dans les bus, même dans les rues, même dans les meetings politiques, partout, on ne parle que de Dieu, que de religion. Donc les conditionnements sociaux, d'une part en Occident, empêchent l'expression, l'épanouissement des religions. En Afrique, même, il y a un excès. C'est de façon excessive. Dieu est partout. Même là où nous devrions avoir notre responsabilité. Alors, je termine en disant que, mais pourquoi toutes ces affaires? Mais c'est parce que, dans la Bible, déjà, il y a une tension insurmontable entre, d'une part, la théologie sacerdotale, et ça c'est important pour le discernement des religions, qui dit que les hommes, nous sommes dans le péché, et Dieu est saint, si nous approchons de lui, nous allons mourir. Donc, il faut une classe sacerdotale, dans les tribus de Lévi, et la famille d'Aaron, qui sont choisis par Dieu lui-même pour servir des tampons entre Dieu et les hommes pécheurs. Les prêtres, ils sont pécheurs, mais pas s'ils sont choisis par Dieu.
Benoît,
le culte est nécessaire pour nous approcher de Dieu, moyennant la médiation de la classe sacerdotale.
Benoît,
oui. Mais d'autre part, c'est tout le livre historique, prophétique et le prophète, le roi au prophète, la théologie prophétique de Deutéronomie qui dit que les promesses de Dieu sont conditionnelles à nos actes d'obéissance à ses commandements. Et cette théologie, effectivement, je prends l'exemple de l'exil qui est central, 587 avant Jésus-Christ, le temple est détruit, la monarchie est détruite, le dernier roi, on l'a égorgé, c'est Sédéchias, et le temple est détruit, et ils perdent et la terre, et tout ce que Dieu a promis, la terre, le temple, la royauté, est perdu parce qu'ils n'ont pas suivi la loi. Et le texte, surtout le livre des rois, dit que Dieu lui-même a décidé de la destruction du temple depuis l'exil. Hein? Donc, alors, je résume. Pourquoi cette tension? C'est parce que, d'une part, en Afrique, on met l'emphase sur le culte. Hein? Le culte, c'est ce qui domine. Mais ici, en Occident, les églises ferment, mais quand même, si beaucoup de gens veulent vivre ici, c'est parce qu'ils ont assimilé certaines valeurs de la responsabilité de l'homme devant Dieu, qui est appelé aussi à régir ses affaires mondaines. Donc, je résume mon intervention en disant que, d'une part, et ça mon collègue l'a fait, il faut une phénoménologie sociale de la religion, mais d'autre part, cette phénoménologie se réside Hein? Les concepts sans expérience sont vides et l'expérience sans concept est obscure, est muette. Il faut intervenir l'orthodoxie qui fait que quelqu'un, je finis par cet exemple, voit par exemple dans une ici, j'ai fait un jour Ottawa-Montréal, plutôt Ottawa-Paris, et il était l'heure de prière pour un juif assidu qui était assis, ils étaient deux, ils ont bloqué tout un couloir dans l'avion pour faire la prière. Par là, je voulais montrer la limite de l'effet caméléon qui peut faire croire que les individus s'adaptent à tout prix aux contraintes sociales, mais là, on a un cas efficient. En plus, dans les sociétés où le religieux est exclu du monde de l'espace global, mais dans l'avion, quelqu'un, peut-être pour lui, le culte le connecte à Dieu directement. Du coup, toutes les autres valeurs et considérations tombent dans l'eau.
Merci Benoît de mentionner cet aspect de la mondialisation et des migrations qui ont contribué à l'effet caméléon en sociologie de la religion en Afrique. Et cet exemple de l'introduction du christianisme et de l'islam sont des exemples historiques ou contemporains marquants de l'effet caméléon en sociologie de la religion en Afrique. Jean-Pierre, il y a cette observation qu'on voit en Afrique, notamment une double affiliation religieuse. Certaines personnes peuvent entretenir une double affiliation religieuse, pratiquant simultanément différentes religions. Et cette pratique peut être motivée par des raisons familiales, des mariages mixtes ou le désir de répondre à des besoins spirituels divers. Ma question est la suivante. Comment l'effet caméléon affecte-t-il la construction de l'identité religieuse en Afrique?
Oui, juste avant de parler de l'identité, religieuse, je voudrais revenir sur ce que mon collègue, qui est professeur aussi, Benoît, qui vient de dire, et le lien d'abord qui entre l'individu et cette communauté réelle ou imaginaire à travers la religion et l'effet de l'imitation, comme on le disait. Juste prenons l'exemple du christianisme, mais cela existe dans plusieurs religions, il n'y a pas que le christianisme. Donc, depuis le 4e siècle, avec les moines, par exemple, et du désert, il y avait cette locution latine, perinde, à cadaver. Donc, carrément, ça signifie vivre à la manière d'un cadavre. Et plus tard, par exemple, au 6e siècle, il y a, avec Saint Ignace de Loyola, par exemple, chez les Jésuites, il parlera de l'obéissance, obéir comme un cadavre. Et donc, dans ce sens-là, on pourrait dire, si obéir comme un cadavre, c'est-à-dire qu'il faut mourir en soi, donc ça fait le sujet, comme je disais au début, n'existait plus. Donc là, et je suis, donc tout d'un coup, on peut dire, je suis dans l'imitation. Et très probablement, enfin pas très probablement, même cette notion, par exemple, d'imitation, qui est recommandée, par exemple, l'imitation des saints. C'est-à-dire, il y a des modèles qu'on vous impose, qui ont fait du bien dans leur société, certes, mais qui deviennent, c'est comme s'il faut marcher à l'autre. Donc, à ce moment-là, on pourrait dire que cela est un fait aussi à analyser ou davantage. Mais aussi, pour ce qui est des sociétés africaines, je reviendrai à votre question ou à propos de la question identitaire, mais c'est qu'aussi, c'est que, disons, ce sujet nous amène aussi à réfléchir sur un certain nombre de logiques fondamentales qu'on trouve dans toutes ces religions. Et c'est, par exemple, leur relation au conflit qu'elles génèrent de plus en plus. Et là, c'est aussi l'ambiguïté. Et donc, cela est certainement lié aussi à l'identité. Parce que ceux qui ont étudié ce qu'on appelle l'extrémisme religieux, ou plutôt les relations multiples entre la religion et les conflits, donc dans nos sociétés, ont observé qu'il y avait un élément identitaire qui déclenchait davantage, ou qui permettait cette relation entre conflits et religion, et des conflits extrêmement violents, donc où la violence, pour le dire, extrême même. Donc là, ça m'amène à la question d'identité. Donc je crois que dans le cas de l'Afrique, il y a plusieurs raisons, comme vous avez dit. C'est pas seulement dans le cas de mariage mixte. Et ici, j'aimerais reprendre une expression qui a été utilisée par le théologien camerounais qui parlait des concubinages religieux dans ce cas d'identité, pas en termes de mariage, mais le fait que quelqu'un qui se dit musulman ou chrétien ou autre religion, mais continuer à pratiquer, par exemple, la religion traditionnelle. Et il y a plusieurs raisons à ça. C'est que cette religion traditionnelle est le fait d'abord de son identité première. Ce n'est pas seulement une identité, je dirais, qu'on embrasse, comme on embrassait le christianisme ou l'islam, mais c'est même essentiel, ou on pourrait le dire, c'est ce qui le définit fondamentalement comme un Africain fondamental, comme un Noir fondamental, donc dans sa société, où on ne peut même pas séparer la religion et la vie réelle. Et c'est ce que disait Aimé Seigneur, que dans les traditions africaines, où c'est le Noir, il n'y a pas cette dualité entre le sacré et le profane. Et donc, alors cet Africain qui vit profondément comme Africain, il ne peut pas renoncer à son africanité. Donc il sera musulman, il demeure Noir, et Africain, il sera chrétien ou chrétienne, la même chose. Donc c'est ça ce qui pourrait expliquer cette double identité entre guillemets. Mais la deuxième raison, et là je reviens à Laura Jean-Marquella.
Très rapidement, Jean-Pierre.
Oui, je finis très rapidement. C'est qu'il avait observé, parce qu'on parle des religions et sociétés, ou la sociologie de la religion, c'est qu'il avait constaté que les religions, n'importe chrétienne, musulmane, n'arrivait pas à répondre aux besoins réels de la population. Du coup, quelqu'un peut être très malade, quelqu'un peut manquer de soucis, donc du coup, il retourne entre guillemets chez le féticheur ou un guérisseur, disons, où il essaie de trouver des solutions qu'il n'avait pas avant. Et cela permet donc le concubinage. Le matin, il peut être à la messe, et le soir, il est le guérisseur. Et donc ça pourrait expliquer aussi ces doubles identités.
Merci, il nous reste moins de 3 minutes. On va les partager. Jean-Pierre, je vais commencer avec vous. On observe parfois des individus qui se convertissent à une religion particulière, non pas par conviction spirituelle profonde, mais plutôt par opportunisme social ou économique. Existe-t-il des initiatives ou des approches visant à atténuer l'effet caméléon en sociologie de la religion en Afrique et à promouvoir une plus grande tolérance religieuse et diversité? En une minute.
Il y a beaucoup de questions dans votre question, mais juste je peux répondre, prendre l'un ou l'autre élément très très rapidement. Bon, d'abord, opportunisme, je ne sais pas, je ne peux pas juger de la décision de quelqu'un d'adhérer à une religion, à moins qu'on parle d'un enfant, par exemple. Il y a aussi évidemment un enfant qu'on baptise sans demander son avis. Mais ici, j'aimerais citer un ancien missionnaire et qui est arrivé au 19e siècle à Kinshasa du côté à Kinshasa, et il pensait à la conversion de la population. Et voilà ce qu'il donna comme message à d'autres prêtres, à d'autres missionnaires.
En 20 secondes.
Je le cite, il dit, le nègre, il faut le prendre par l'estomac. Donc, pour la conversion, donc opportuniste. Ah. Évidemment, si vous venez avec des choses que vous vendez aux gens, vous voulez gratuitement, pour certaines personnes peuvent être attirées.
Benoît Ouazi, il nous reste 30 secondes. Benoît, la parole est à vous.
Écoutez, Eric, en tout cas, merci. Alors, je rapporte quand même aux écrits, mais ce que mon collègue a dit, en gros, c'est ça. Comme j'ai dit au début, il y a en Afrique un processus souterrain, génétique, profond, de retraditionnalisation. Et je ratifie ce que mon collègue a dit, que les religions traditionnelles africaines sont notre première ipséité, c'est plus que l'identité. C'est notre âme, c'est notre âme. C'est à partir de cette âme de nos religions traditionnelles africaines que nous sommes chrétiens ou musulmans, d'où le travail colossal. Je parle au point de vue chrétien qui m'intéresse.
Merci Benoît Awazim Bambi Kungwa. On n'a plus de temps pour continuer la discussion. Merci en tout cas pour votre contribution et votre disponibilité. Merci à Jean-Pierre Karegeye pour sa contribution. Lionel Lunanila Gahima sur la mise en onde. Eric Manila qui était avec vous. On parlait de la problématique entourant le phénomène de l'effet caméléon en sociologie de la religion en Afrique. Au revoir et à très bientôt.